Il résulte de là une image de l'homme et de l'humanité qui est bien différente de celle d'où nous sommes partis. L'humanité n'est pas une somme d'individus, une communauté de penseurs dont chacun, dans sa solitude, soit assuré d'avance de s'entendre avec les autres parce qu'ils participeraient tous de la même essence pensante. Elle n'est pas davantage, bien entendu, un grand être où la pluralité des individus serait fondue et destinée à se résorber. Elle est par principe en porte-à-faux. Chacun ne peut croire qu'à ce qu'il reconnaît pour vrai intérieurement. Et en même temps, chacun ne pense et ne se décide que déjà pris dans des rapports avec autrui qui l'orientent de préférence vers telle espèce d'opinion. Chacun est seul et personne ne peut se passer des autres, non seulement pour son utilité qui n'est pas ici en cause, mais pour son bonheur. Il n'y a pas de vie à plusieurs qui nous délivre de la charge de nous-mêmes et nous dispense d'avoir un avis. Et il n'y a pas de vie intérieure qui ne soit comme un premier essai de nos relations avec autrui. Dans cette situation ambiguë, où nous sommes jetés parce que nous avons un corps et une histoire personnelle et collective, nous ne pouvons trouver de repos absolu. Il nous faut sans cesse travailler à réduire nos divergences, à expliquer nos paroles mal comprises, à manifester ce qui de nous est caché, à percevoir autrui. La raison et l'accord des esprits ne sont pas derrière nous, ils sont présomptivement devant nous, et nous sommes aussi incapables d'y renoncer que de les posséder jamais à titre définitif. Chez Cézanne, chez Juan Gris, chez Braque, chez Picasso, de différentes manières, on rencontre des objets, citrons, mandolines, grappes de raisin, paquets de tabac, qui ne glissent pas sous le regard à titre d'objets bien connus, mais qui au contraire l'arrêtent, l'interrogent, lui communiquent bizarrement leur substance secrète, le mode même de leur matérialité, et pour ainsi dire, saignent devant nous. Ainsi, la peinture nous reconduisait à la vision des choses mêmes. Inversement, et comme par un échange de services, une philosophie de la perception qui veut réapprendre à voir le monde restituera à la peinture et en général aux arts leur vraie place, leur vraie dignité. Qu'avons-nous appris en effet à considérer le monde de la perception? Nous avons appris que dans ce monde, il est impossible de séparer les choses et leur manière d'apparaître. Quand je définis une table, comme le fait le dictionnaire, plateau horizontal soutenu par trois ou quatre supports et sur lequel on peut manger, écrire, etc. J'ai le sentiment d'atteindre l'essence de la table et je me désintéresse de tous les accidents dont elle peut s'accompagner, forme des pieds, style des moulures, etc. Mais ce n'est pas là percevoir, c'est définir. Quand au contraire je perçois une table, je ne me désintéresse pas de la manière dont elle accomplit sa fonction de table. Et c'est la façon chaque fois singulière dont elle porte son tableau, ou son plateau, veux-je dire. C'est le mouvement unique, depuis les pieds jusqu'au plateau, qu'elle oppose à la pesanteur. Voilà ce qui m'intéresse et qui fait chaque table distincte de toutes les autres. Il n'y a pas de détails ici. Fibre du bois, forme des pieds, couleur même et âge de ce bois, graffiti ou écorchure qui marque cet âge, rien qui soit insignifiant. Et la signification table ne m'intéresse qu'autant qu'elle émerge de tous les détails qui l'incarnent. Or, si je me mets à l'école de la perception, je me trouve prêt à comprendre l'œuvre d'art, car elle est, elle aussi, une totalité charnelle, où la signification n'est pas libre, pour ainsi dire, mais liée, captive de tous les signes, de tous les détails qui me la manifestent. De sorte que, comme la chose perçue, l'œuvre d'art se voit ou s'entend, et qu'aucune définition, aucune analyse, si précieuse qu'elle puisse être après coup à titre d'inventaire, ne saurait remplacer l'expérience perceptive et directe que j'en prends. Cela n'est pas si évident d'abord, car enfin, la plupart du temps, un tableau représente, comme on dit, des objets. Souvent, un portrait représente quelqu'un dont le peintre nous donne le nom. Après tout, pourrait-on dire, la peinture n'est-elle pas comparable à ces flèches indicatrices dans les gares qui n'ont d'autre fonction que de nous diriger vers la sortie ou vers le quai ? Ou encore à ces photographies exactes qui nous permettent d'examiner l'objet en son absence et en retiennent tout l'essentiel. Si c'était vrai, le but de la peinture serait le trompe-l'œil, et sa signification serait toute hors du tableau, dans les choses qu'il représente, dans le sujet. Mais c'est précisément contre cette conception que toute peinture valable s'est constituée et que les peintres luttent très consciemment depuis 100 ans au moins. La peinture n'est pas une imitation du monde, mais un monde pour soi. Et cela veut dire que dans l'expérience d'un tableau, il n'y a aucun renvoi à la chose naturelle. Dans l'expérience esthétique du portrait, aucune mention de sa ressemblance au modèle réel. Ceux qui commandent des portraits les veulent souvent ressemblants, mais c'est qu'ils ont plus de gloriole que d'amour de la peinture. Même quand ils travaillent sur des objets réels, le but du peintre n'est jamais d'évoquer l'objet même, mais de fabriquer sur la toile un spectacle qui se suffit. La distinction souvent faite entre le sujet du tableau et la manière du peintre n'est pas légitime, parce que, pour l'artiste, tout le sujet est dans la manière dont le raisin, la pipe ou le paquet de tabac sont constitués par le peintre sur la toile. Voulons-nous dire qu'en art, la forme seule importe et non ce qu'on dit ? Nullement. Nous voulons dire que la forme et le fond, ce qu'on dit et la manière dont on le dit, ne sauraient exister à part. Nous nous bornons en somme à constater cette évidence, que si je peux me représenter d'une manière suffisante, au moins dans ses traits généraux, d'après sa fonction, un objet ou un outil que je n'ai jamais vu, par contre, les meilleures analyses ne peuvent me donner le soupçon de ce qu'est une peinture dont je n'ai jamais vu aucun exemplaire. Il ne s'agit donc pas, en présence d'un tableau, de multiplier les références au sujet, à la circonstance historique s'il en est une qui est à l'origine du tableau. Il s'agit, comme dans la perception des choses mêmes, de contempler, de percevoir le tableau, selon les indications muettes de toutes parts que me donnent les traces de peinture déposées sur la toile, jusqu'à ce que toutes, sans discours et sans raisonnement, se composent en une organisation stricte où l'on sent bien que rien n'est arbitraire, même si l'on est hors d'état d'en rendre raison. Le cinéma n'a pas encore produit beaucoup d'ouvrages qui soient de part en part œuvres d'art. L'engouement pour les vedettes, le sensationnel des changements de plan ou des péripéties, l'intervention des belles photographies ou celle d'un dialogue spirituel sont pour le film autant de tentations où il risque de s'engluer. Il trouve alors le succès en omettant les moyens d'expression les plus propres au cinéma. Malgré toutes ces circonstances qui font qu'on n'a guère vu jusqu'ici de film qui soit pleinement film, on peut entrevoir ce que serait un tel ouvrage, et l'on va voir que, comme toute œuvre d'art, il serait encore quelque chose que l'on perçoit. Car ce qui peut constituer la beauté cinématographique, ce n'est ni l'histoire en elle-même, que la prose raconterait très bien, ni, à plus forte raison, les idées qu'elle peut suggérer, ni enfin ses tics, ses manies, ses procédés par lesquels un metteur en scène se fait reconnaître, et qui n'ont pas plus d'importance décisive que les mots favoris d'un écrivain. Ce qui compte, c'est le choix des épisodes représentés, et, dans chacun d'eux, le choix des vues que l'on fera figurer dans le film, la longueur donnée respectivement à chacun de ces éléments, l'ordre dans lequel on choisit de les présenter, le son ou les paroles dont on décide ou non de les accompagner, tout cela constituant un certain rythme cinématographique global.
Tout d'un coup, après une note haute, longuement tenue pendant deux mesures, il vit approcher, s'échappant de sous cette sonorité prolongée et tendue, comme un rideau sonore pour cacher le mystère de son incubation, il reconnut, secrète, bruissante et divisée, la phrase aérienne et odorante qu'il aimait.
La musique nous fournirait un exemple trop facile et auquel, pour cette raison même, nous ne voulons pas nous arrêter. Impossible ici, de toute évidence, d'imaginer que l'art renvoie à autre chose que lui-même. La musique à programme, qui nous décrit un orage ou même une tristesse, est l'exception. Ici, nous sommes incontestablement en présence d'un art qui ne parle pas. Et cependant, il s'en faut bien qu'une musique ne soit qu'un agrégat de sensations sonores. À travers les sons, nous voyons apparaître une phrase, et de phrase en phrase un ensemble, et enfin, comme disait Proust, le monde d'un musicien, qui est lui-même, dans le grand monde de la musique possible, la région de Bussy ou le royaume Bach. Rien à faire ici que d'écouter, sans retour sur nous-mêmes, nos souvenirs, nos sentiments, comme la perception regarde les choses mêmes sans y mêler nos rêves.
D'abord, il n'avait goûté que la qualité matérielle des sons sécrétés par les instruments. Et ça avait été un grand plaisir quand au-dessous de la petite ligne du violon, mince, résistante, dense et directrice, il avait vu tout d'un coup chercher à s'élever en un clapotement liquide la masse de la partie de piano, multiforme, indivise, plane et entrechoquée, comme la mauve agitation des flots que charme et bémolise le clair de lune.
On peut enfin dire quelque chose d'analogue de la littérature, quoique cela ait été souvent contesté, parce que la littérature emploie les mots qui sont aussi faits pour signifier les choses naturelles. Il y a longtemps déjà que Mallarmé a distingué l'usage poétique du langage du bavardage quotidien. Le bavard ne nomme les choses que juste assez pour les indiquer brièvement, pour signifier de quoi il s'agit. Au contraire, le poète, selon Mallarmé, remplace la désignation commune des choses, qui les donne comme bien connues, par un genre d'expression qui nous décrit la structure essentielle de la chose sans nous donner son nom, et nous force ainsi à entrer en elle. On trouve chez Mallarmé la conscience la plus nette de la poésie comme entièrement portée par le langage, sans référence directe au monde même, ni à la vérité prosaïque, ni à la raison. Par conséquent, comme une création de la parole qui ne saurait être complètement traduite en idée. Et comme la poésie, ainsi que le diront plus tard Henri Brémond et Valéry, n'est pas d'abord significative d'idées ou signifiant, Mallarmé et plus tard Valéry refusent d'approuver ou de désapprouver tout commentaire prosaïque de leur poème. Dans le poème, comme dans une chose perçue, on ne peut séparer le fond et la forme, ce qui est présenté et la manière dont il se présente au regard. L'homme et le monde sont comme des ouvrages sans conclusion et dont on ne sait pas s'ils en comporteront jamais une. Si l'ambiguïté et l'inachèvement sont écrits dans la texture même de notre vie collective et non pas seulement dans les ouvrages des intellectuels, il serait dérisoire de vouloir y répondre par une restauration de la raison au sens où l'on parle de restauration à propos du régime de 1815. Nous pouvons et nous devons analyser les ambiguïtés de notre temps et tâcher, à travers elles, de tracer un chemin qui puisse être tenu en conscience et en vérité. Quand on nous parle de l'œuvre classique comme d'une œuvre achevée, nous devons nous rappeler que Léonard de Vinci et beaucoup d'autres laissaient des ouvrages inachevés, que Balzac tenait pour indiscernable le fameux point de maturité de l'œuvre classique, que Cézanne, qui considérait sa peinture entière comme une approximation de ce qu'il cherchait, nous donne cependant plus d'une fois le sentiment de l'achèvement ou de la perfection. C'est peut-être par une illusion rétrospective, parce que l'œuvre est trop loin de nous, trop différente de nous pour que nous soyons capables de la reprendre et de la poursuivre, que nous trouvons à certaines peintures un air définitif. Les peintres qui les ont faites n'y voyaient qu'essai ou échec.
Déjà, dans ses causeries de 1948, Maurice Merleau-Ponty tenait l'inachèvement pour un trait essentiel de sa démarche. Une philosophie qui ne cherche pas à analyser le monde, mais qui souhaite plutôt le décrire, ne peut se clore ni se conclure tout à fait. S'approcher du sensible, du simple fait de la perception, c'est reconnaître qu'on ne peut pas tout dire, ni tout rassembler dans une pensée capable de synthèse. Le philosophe n'en a jamais terminé. Il est, selon une formule de Husserl, un commençant perpétuel. C'est en ce sens qu'il faut entendre ce qui va suivre. En 1959, 11 ans après les causeries, Maurice Merleau-Ponty s'entretient avec Georges Charbonnier et rappelle quel fut son itinéraire.
Dès la fin de mes études, je m'étais attaché aux relations de l'âme et du corps comme un problème qui m'intéressait spécialement. Et ma foi, j'ai continué dans ce sens pendant une quinzaine d'années. Et c'est le résultat de cet effort qui apparu sous la forme de deux livres, l'un sur la perception, l'autre sur le comportement, qui sont tous les deux, à des dates différentes d'ailleurs, car il y a un décalage de 6 ans entre eux, qui sont tous les deux consacrés plus ou moins au problème des relations de l'âme et du corps. Au fond, voyez-vous, ce qui, pendant toutes mes études, m'avait toujours frappé, c'est que nos maîtres, dans l'ensemble, étaient cartésiens. Un homme comme Léon Brunschvicg était cartésien. Il admettait donc entre l'esprit et le corps une distinction catégorique, qui était la distinction de ce qui est conscience et de ce qui est chose. C'est pas l'existence comme chose et l'existence comme conscience, étant opposées l'une à l'autre, comme l'enseigne Descartes, tout le monde le sait. Ces philosophes ne voyaient pas de problème. Chaque fois que nous constatons dans l'expérience, comme Descartes d'ailleurs avait fortement dit, que nous le constatons, un lien entre l'esprit et le corps, ces philosophies-là tendent toujours à montrer que ce lien, quand on réfléchit, ne subsiste pas. Il y a un lien entre mon esprit et mon corps, puisque, par exemple, je perçois, selon ce qui se passe dans le monde extérieur, selon l'action qu'exercent les objets extérieurs sur mes sens, et ceci marque par conséquent une action du corps sur l'esprit, et inversement, il y a une action de mon esprit sur mon corps quand je me meus, quand je déplace mon corps. Mais ces problèmes-là, pour les penseurs formés à l'école de Descartes et de Kant, ces phénomènes-là sont des phénomènes de second ordre. Lorsque l'esprit réfléchit sur sa vraie nature, il s'aperçoit seulement comme pure conscience, pensée au sens cartésien, et c'est lui-même qui est encore le spectateur de la relation de l'esprit et du corps. Il la voit, il la pense, il la constitue. Cela fait partie de l'univers de la pensée, mais ce n'est pas un lien de la pensée avec autre chose qu'elle-même. Et c'est cette immanence philosophique, de la pensée à elle-même, qui m'a toujours choqué, qui m'a toujours paru insuffisante. Et de sorte que dès le temps de mes études, je me proposais de travailler sur ce problème des relations de l'esprit avec ce qui n'est pas lui.